de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
Vous l'avez entendu, vous l'avez deviné, Radio Pleine Lune dans vos oreilles et dans vos yeux. Vous avez regardé, ouvrez vite la fenêtre, c'est la pleine lune. Mais restez branchés sur 93.8 MHz, Radio Pleine Lune. Tout à l'heure, les nouvelles qui seront suivies d'un memento. À partir de 20h, nous aurons deux programmes musicaux. À 21h, une émission, Une vie de femme. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, dans un instant, nos nouvelles. Radio Pleine Lune, nos nouvelles. L'événement du jour, la grève du personnel de la fonction publique à Genève. Ils étaient autour des 3000, selon mes estimations, ce matin à 10h sur la plaine de Plainpalais pour exprimer leur désaccord avec la politique d'économie du Conseil d'État à Genève. Les rues étaient vides de bus qui n'étaient pas sortis entre 5h et 10h du matin. Ils cassent les accords. Pas d'accord. Ils bradent les prestations. Nous agissons. Pouvait-on lire sur les autocollants orange et jaune lumineux portés ou collés sur les bus, sur les murs, sur les sacoches des vélos. Un tract explique le pourquoi du débrayage. Je cite, « Le Conseil d'État veut diminuer les effectifs du personnel de 2% en 2 ans, de manière rigide et linéaire. Nous répondons que dans la situation actuelle, il faut effectivement chercher des économies. Nous demandons que s'ouvre enfin une concertation qui permette, grâce à la participation du personnel, d'éliminer les gaspillages, de stopper les dépenses de prestige, d'évaluer les prestations et les besoins en effectifs. Mais ces économies ne doivent pas remettre en cause les prestations sociales de l'État. Nous nous sommes baladés avec le micro parmi les grévistes et nous leur avons demandé pourquoi Elle se trouvait dans la rue et le froid.
Dans le froid, ouf. Parce que je trouve difficile dans cette période conjoncturelle de penser que... Effectivement, on pourrait aussi profiter d'une période telle que celle-là pour avoir un peu plus d'imagination, si on veut bien mettre en place des possibilités de postes, peut-être en privilégiant des postes même à temps partiel, ce qui ferait plus de postes de travail, ce qui serait beaucoup plus solidaire.
Donc c'est pas seulement une question de salaire hein, pour laquelle tu es là?
Non, pas uniquement. Je dirais surtout, c'est pas la priorité, parce qu'effectivement, on peut admettre des critiques de beaucoup de gens de la population comme quoi on a déjà des relativement bons salaires. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu des tractations faites depuis des années pour avoir des droits par rapport aux salaires, aux inflations diverses et multiples, et que tout d'un coup, ces droits sont bafoués de manière effective.
Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu penses alors des économies, du paquet d'économies que propose le Conseil d'État? Faut-il faire des économies? Comment?
Je pense, oui, effectivement.
C'est un faux problème?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ça doit certainement être un vrai problème, mais que tout d'un coup, parce qu'il y a un vrai problème, on tire des sonnettes d'alarme, alors que pendant des années, pour des raisons, je pense, surtout électoralistes, on ne parle pas d'augmenter des impôts alors que les prestations sont bonnes par rapport à la population, je trouve inadmissible.
Et toi, pourquoi tu fais grève?
Les mêmes raisons que toi.
Oui, et toi, pourquoi tu fais la grève aujourd'hui?
Parce que je suis solidaire avec tous les enseignants et tous les gens qui ont des problèmes de poste.
Tu crois que c'est juste une question de poste, de salaire?
Oui, moi le salaire, je veux dire, je m'en fous un peu. Mais les postes, c'est important et on a des coupures de postes partout.
Pourquoi tu fais grève?
Pourquoi je fais grève?
Pourquoi tu es là?
Parce que je trouve que ça justifie se mobiliser pour défendre un état social qui distribue des prestations de qualité. Et puis ces prestations sont menacées, donc c'est ma première motivation pour faire grève.
Tu es dans quel secteur?
Je suis en protection de la jeunesse.
Ah d'accord, il y a beaucoup de personnes dans votre service qui sont dans la rue?
Oui, il y a pas mal de personnes. On s'est rejoint en cortège avec l'hospice général, le tuteur général, l'inspectorat du travail, les statistiques. On était pas mal de monde, oui.
Alors, dis-moi, pourquoi tu fais la grève? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu fais grève?
Tu veux pas causer?
Oui, mais tu es ici, tu veux pas grève, mais tu es ici. Dis-moi pourquoi.
Je suis là pour la solidarité.
Très bien. Et toi?
À cause de mes mômes.
Pour tes mômes?
Ben oui.
C'est solidarité avec l'école, c'est ça?
Avec l'école, bien sûr. Écoute, je sais pas, je me dis, t'as des enfants, t'es quand même concernée par ce qui se passe, non?
Donc t'as peur qu'il n'y aura pas assez de profs, pas assez d'enseignants?
Absolument.
À Tunis, rencontre de femmes face à la montée des intégrismes. Au terme d'une rencontre de deux jours au courant du mois de décembre sur le thème « Droits et devoirs des femmes maghrébines face à la montée des intolérances », les femmes du Maghreb ont adopté une déclaration de Tunis. La réunion a en outre débouché sur la recommandation de la création d'une union des organisations et associations féminines maghrébines. Des responsables d'organisations féminines, des femmes universitaires appartenant aux cinq États maghrébins, ont clairement fait entendre leur voix. Elles expriment ainsi la communauté de destin et la conviction des femmes maghrébines à relever les défis, à consolider l'édifice maghrébin et à faire face à tous les courants d'extrémisme et d'intolérance. Irlande, question d'avortement. La décision de la Haute Cour d'empêcher une jeune fille violée de se faire avorter à Londres a indigné l'opinion publique, relayée par l'opposition, qui remet en cause l'interdiction de l'interruption volontaire de la grossesse. Manifestation de masse devant le Parlement, indignation de l'opposition, remise en cause du système législatif. À peine est-il entré dans ses fonctions que le tout nouveau Premier ministre irlandais doit déjà faire face à une crise sociopolitique majeure après la décision de la Haute Cour de Dublin d'interdire à une jeune fille de 14 ans, victime d'un viol, d'aller avorter en Grande-Bretagne. Au début du mois, en effet, les parents de l'adolescente s'étaient rendus à Londres, bien décidés à lui faire pratiquer l'interruption de grossesse. Mais avant leur départ, ils prenaient contact avec la police afin de s'enquérir des éventuels tests génétiques qui pourraient aider à découvrir le violeur. Aussitôt, l'Attorney General leur enjoignait de revenir au pays et leur interdisait toute intervention médicale. La Haute Cour n'a donc fait que confirmer le jugement initial, mais en une semaine, l'opinion publique, relayée par les travaillistes et les sociaux-démocrates, s'est emparée de cette tragédie pour dénoncer, je cite, « une nation archaïque qui se prononce en faveur de la souffrance de ses propres citoyens ». On apprenait que la jeune fille affirmait avoir été molestée depuis plus d'un an par un ami de son père. Elle aurait essayé de se suicider en décembre quand elle a su qu'elle était enceinte. Il est vrai que 2/3 des Irlandais ont voté en 83 pour amender encore la Constitution et renforcer le droit à la vie du fœtus. Mais à l'époque, personne ne pensait en arriver à ces extrémités. Il s'agit là d'une enfant qui a subi un viol avec toute la douleur physique que cela signifie, et les gens sont révoltés de voir le système lui tourner le dos. Sans compter qu'une partie de la population a certainement évolué ces dernières années sur le problème de l'avortement, même si l'Irlande reste sans aucun doute en majorité contre l'avortement. L'année dernière, cependant, entre 6 000 et 7 000 femmes auraient fait le voyage de la République vers la Grande-Bretagne pour se faire avorter, grâce à un réseau de femmes de mieux en mieux organisé. Les parents de la jeune fille disent vouloir faire appel de la décision. Donc, les parents vont faire appel devant la Haute Cour auprès de la Cour suprême, la plus haute instance législative du pays. Dans le nouveau Berlin, lieu de rencontre pour femmes arabes. À Berlin, les femmes arabes vivent en triple exil par rapport aux pays hôtes, à leurs propres enfants et à leurs maris. Un lieu de rencontre qu'elles se sont inventées, Ad-Dar, est peut-être leur seul échappatoire. Dans une Allemagne tout auréolée de son union, résolue à défendre sa place dans un monde qui se modifie au fil des ans, la communauté arabe de Berlin, forte de quelque 15 000 personnes, dont environ 10 000 Palestiniens, essaye, elle aussi, et tant bien que mal, de ne pas être emportée par la tourmente. Survivre, aider ses enfants, aussi bien ceux qui appartiennent à la deuxième génération que ceux nés en pays d'origine, et maintenir la communication avec la population allemande, semble a priori être des objectifs faciles à atteindre. Dans la réalité, comme en témoignent leurs femmes, le vécu des Arabes est dur, même si, comparé à d'autres pays, la France par exemple, ce vécu semble bénéficier de la part des Allemands de plus de compréhension. Maintenir justement le contact, saisir sa chance au vol, sont les mots-clés de la responsable du Centre de la femme arabe à Berlin. Après une attente longue de quelque 3 ans, des femmes arabes, poussées par le besoin de s'exprimer entre elles, de parler des problèmes qui se posent à elles chaque jour, de présenter aussi une autre image de l'arabe que les Occidentaux s'acharnent à montrer surtout comme terroriste, ont décidé d'ouvrir un centre, le nom Ad-Dar, la maison, lieu de rencontre avant tout, où les femmes essayeront de tenir, d'abord face à une société où elles se sentent étrangères, ensuite face à un mari chez lequel s'opère très souvent en pays étranger un comportement différent de celui adopté en pays d'origine, face aussi et en définitive à des enfants élevés en Allemagne auprès desquels les mères se reconnaissent à peine. Dans ce réel complexe, extrêmement dur, il faut compter en termes de priorité avec les femmes arabes qui ne bénéficient pas d'emploi. C'est en effet celle qui subit le plus. D'abord, et trop souvent, sans aucune connaissance de la langue allemande, elle est obligée de se cloîtrer chez elle. Frustrée, elle le sera encore plus avec le mari qui rentre à la maison avec une carapace d'indifférence, celle d'un arabe ayant passé sa journée dans un milieu hostile non arabe. À son tour, elle servira au mari de défouloir et de souffre-douleur. Poussée à bout, victime de racisme souvent primaire, le mari se réfugie dans un comportement conservateur à fleur de peau. Les femmes arabes battues par leurs maris sont ici plus nombreuses que celles battues en pays d'origine, constate la responsable du Centre des femmes. Un autre problème se pose fréquemment au centre. Il s'agit de l'éducation, de la scolarité des enfants. Ces derniers, d'une façon générale, n'arrivent pas à communiquer convenablement, ni dans la langue allemande, ni dans la langue arabe. Les parents eux-mêmes, déchirés entre deux cultures très différentes, l'une de l'autre, croyant bien faire, utilisent une langue allemande tordue pour s'adresser à leurs enfants. Le message véhiculé par la langue est par contre très différent de celui du milieu où vivent les enfants, autrement dit le milieu scolaire. Le résultat s'avérera négatif et l'on comprend pourquoi le pourcentage d'Arabes qui vont à l'université en Allemagne ne dépasse pas 5% de la totalité des étudiants. Plus que le garçon, la fille appartenant à la deuxième génération vit encore plus difficilement l'intégration, surtout en matière de sexualité. Car si le garçon vit normalement ce passage, la fille, par contre, est rappelée à tout moment à l'ordre par des parents eux-mêmes déchirés entre deux cultures. Imaginez que l'on n'a même pas le droit de lever la main sur nos enfants ici en Allemagne, relève désemparée une Égyptienne vivant à Berlin et que l'on a rencontrée au centre. Pour avoir ignoré cette loi, une mère palestinienne sera empêchée, elle et son mari, de voir leur fille durant 7 ans. Elle reviendra, mais mariée à un Allemand. La mère accepte ce retour, réussit même à établir une bonne communication avec le gendre. Quant au père, il tiendra bon. Il ne reconnaîtra pas la fille et moins encore le gendre. Fonctionnant selon l'actualité, le centre s'improvise quelquefois en lieu de rencontre pour des débats. Débats autour d'un thème politique, vulgarisation d'un texte de loi qui vient d'être promulgué, explication d'une procédure. Quelquefois aussi, les femmes essayent de faire un travail d'information auprès de la société d'accueil. Travail qui souvent ne connaît pas le couronnement escompté, mais n'entame en rien une volonté tenace, celle de continuer à vivre tout en étant tout à la fois différente et proche de l'autre. En Italie, Alessandra Mussolini, candidate des néofascistes. La petite fille du Duce, Alessandra Mussolini, 28 ans, voudrait figurer sur les listes électorales du parti néofasciste italien, le MSI. Les leaders de ce mouvement d'extrême droite ont d'ailleurs béni cette proposition. La jeune femme est diplômée en médecine, mais cherche à faire une carrière de comédienne. Malgré les difficultés qu'elle rencontre dans cette profession artistique, elle veut conserver le nom de son tristement célèbre grand-père. Suisse pour le maintien de l'interdiction du travail de nuit des femmes. Dans une lettre adressée au conseil fédéral Jean-Pascal Delamurat, la commission Justice et Paix dit espérer que le conseil fédéral ne résiliera pas la convention 89 de l'Organisation internationale du travail. Justice et Paix rejoint ainsi la position de Caritas Suisse rendue publique la semaine dernière. Si l'égalité entre hommes et femmes doit être réalisée, souligne la Commission dans un communiqué, cela ne doit pas se faire au détriment de la protection sociale des travailleurs et des travailleuses. Selon Justice et Paix, l'abandon de l'interdiction internationale du travail de nuit des femmes dans l'industrie reviendrait à ouvrir la porte à une exploitation accrue des travailleurs et des travailleuses. Je cite, cela aurait aussi pour conséquence d'encourager les pays du tiers-monde, dont nombre d'entre eux ont signé cette convention, à recourir davantage au travail nocturne féminin. Une telle évolution approfondirait encore le fossé social entre le Nord et le Sud. À Genève, création d'un point de rencontre pour les enfants du divorce. Pas facile de voir son enfant quand le parent gardien refuse tout contact. Une structure d'accueil a été mise en place, une première en Suisse romande. Depuis le début du mois de janvier, la Fondation officielle de la jeunesse a mis sur pied Point de rencontre. Cet espace permet aux conjoints non gardiens qui habitent un autre canton ou se trouvent sans logement adéquat de voir son enfant dans un espace chaleureux. Muni de 5 chambres, d'une cuisine et d'un coin jeu, Point de rencontre permet également des retrouvailles prolongées sur un week-end. Point de rencontre n'intervient qu'après la décision juridique et uniquement sur demande. Des travailleurs sociaux sont sur place et proposent des solutions concrètes pour aider parents et enfants à se rencontrer. Il faut éviter de se retrouver dans la situation de la France où la moitié des enfants de parents divorcés perdent de vue le parent non gardien après 2 ans, estime l'assistante sociale responsable de ce point de rencontre. Ce projet est issu d'une pétition déposée en 85 et complétée en 91 par le mouvement de la condition paternelle. À Genève, sur 2 mariages, 1 couple divorce. Et sur 20 divorces avec enfants, 1 seul père obtient la garde de sa progéniture. Point de rencontre devrait permettre aux pères de voir leurs enfants dans des conditions acceptables. L'association des mères chefs de famille vont utiliser le point de rencontre, comme le dit leur assistante sociale. Mais, dit-elle, c'est dommage qu'il soit perdu au Grand Lancy. Nous espérons que d'autres structures plus souples, comme les crèches ou les garderies, qui ne fonctionnent pas le week-end, pourront bientôt être utilisées. Toujours sur le front de la petite enfance. La petite enfance est attisée. Trouver une crèche, pas facile à Genève. Un sociologue préconise la création d'un réseau de centres regroupant les professions de la petite enfance. Un moyen de réaliser des économies. C'est ce que nous demande le Conseil d'État, non? Pour un enfant admis en crèche, 3 autres sont refusés. La pénurie inquiète parents et professionnels de la petite enfance. Dans le climat actuel de restrictions budgétaires, il n'est pas possible de construire d'autres établissements pour répondre à une forte demande. Les femmes sont toujours plus nombreuses à conserver une activité professionnelle après la naissance d'un enfant. D'autre part, presque 4 femmes sur 10 sans profession placent tout de même leurs enfants dans une crèche ou jardin d'enfants. La solution? Il faut mettre en place une structure organisée qu'on appellera « centre de vie intégrée » regroupant les 2 différentes professions de la petite enfance, éducateur, maman de jour, jardinière d'enfants, etc., qui agissent actuellement de manière désorganisée, suggère un sociologue, Martial Gautreau. Implantés dans chaque quartier, ces centres devraient être ouverts à tous les parents, samedi et dimanche inclus. Le sociologue estime que pour réaliser son projet, il est nécessaire que les futurs centres soient considérés comme un service public et que les salaires de toutes les catégories du personnel soient identiques. Des chiffres. Environ 40% du personnel occupé par la radio-télévision suisse romande est féminin. Les femmes sont relativement plus nombreuses à la radio, 46%, qu'à la télévision, 36%, mais seulement 9% parmi les cadres de l'entreprise. Nous restons en Suisse. 4 femmes ont été élues à des postes clés cette dernière semaine ou ont été récompensées pour leurs précieuses contributions, soit à la connaissance scientifique, soit à la littérature. Commençons par la Confédération. Première dans l'histoire de la Confédération, la prochaine secrétaire générale de l'Assemblée fédérale sera une femme. La Zougoise Anne-Marie Hubert-Holz a été nommée à ce poste. Âgée de 44 ans, originaire de Zoug, Anne-Marie Hubert-Holz a été préférée à 3 autres candidats. L'élue est économiste, elle a fait une partie de ses études à Genève. Elle est mère de 3 enfants en âge scolaire. Avec Anne-Marie, une deuxième femme occupera un poste clé dans l'administration fédérale. L'été dernier, en effet, la bernoise Anna Muralt, 45 ans, avait été nommée vice-chancelière de la Confédération. C'est là encore une première. Continuons avec les promotions des femmes. À Bâle, la socialiste Véronica Schaller a été élue dimanche lors du deuxième tour pour l'élection au gouvernement de Bâle-Ville et est ainsi la première femme à accéder à l'exécutif cantonal. Avec son élection, Véronica Schaller est la 8e femme à accéder à un exécutif cantonal. 5 femmes sont actuellement en fonction dans les cantons de Zurich, Edith Lang, Lucerne, Brigitte Murner, Schwyz, Margrit Weber, Soller, Cornelia Fugue et Fribourg, Ruth Lutti. Et dans le monde des sciences, Suzanne Gasser, qui anime un groupe de recherche à l'Institut de recherche expérimentale sur le cancer à Lausanne, a reçu le prestigieux prix national de biologie et médecine de la Fondation Latsis, attribué par le Fonds national de la recherche scientifique, qui récompense de jeunes chercheurs scientifiques âgés de moins de 40 ans. Cette distinction récompensait ses travaux de recherche sur le rôle des protéines chromosomiques dans la transmission génétique. Dans un pays où l'on trouve peu de femmes dans la recherche scientifique, l'attribution du prix Latsis démontre qu'une femme peut être reconnue et donne un modèle positif aux étudiantes qui manquent souvent de confiance en leurs possibilités. Beaucoup de femmes font des études en biologie, mais elles hésitent ensuite à prendre la tête d'un groupe. Quant à moi, j'ai toujours espéré que je dirigeais un groupe, affirme la souriante lauréate. Elle continue. Il est difficile d'avoir une famille et de travailler dans la recherche scientifique, commente donc cette chercheuse, mère d'un petit Marc de 5 ans et demi. J'ai la chance d'avoir un mari enseignant qui a des horaires souples. Si une femme est chef de groupe, elle ne peut arrêter sa carrière pour élever des enfants, car elle se retrouverait dépassée en 6 mois. Dans les autres pays, il y a plus de femmes dans la recherche scientifique. Peut-être parce que le système est plus flexible et qu'il y a des structures d'accueil pour les enfants et surtout une attitude plus progressiste qu'ici en Suisse, des maris comme de la société. Autre figure féminine à la tête qui a fait son chemin, c'est à Genève, Huguette Junot, qui a été nommée représentante honoraire pour la littérature genevoise.